Chapitre 91. Et quand, prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume, j'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Journal d'Irène Fayolle, 2013. Je suis entrée chez la dame du cimetière. Elle m'a regardée comme quelqu'un que l'on connaît de vue, mais qu'on ne resitue pas. Elle était seule, assise à sa table. Elle feuilletait un catalogue de jardinage. « Je suis en train de choisir mes bulbes de printemps. Vous préférez les narcisses ou les crocus? J'adore ces tulipes jaunes. » Ses doigts se sont posés sur des photos de massifs de fleurs, une multitude de variétés. « Les narcisses, je crois que je préfère les narcisses. Moi aussi j'aime les fleurs. J'avais une roseraie avant. Où ça? À Marseille. Oh! Je vais à Marseille chaque année, dans la calanque de Sormiou. » J'y allais avec mon fils Julien quand il était petit, c'était il y a longtemps. La dame du cimetière m'a souri comme si nous partagions un secret. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Je veux bien un thé vert. » Elle s'est levée pour me préparer du thé. J'ai pensé qu'elle devait avoir à peu près le même âge que Julien. Elle aurait pu être ma fille. Je crois que je n'aurais pas aimé avoir une fille. Je ne sais pas ce que j'aurais pu lui raconter, comment je l'aurais conseillée, orientée. Un garçon, c'est un peu comme une fleur sauvage, une aubépine. Il pousse tout seul quand il a de quoi manger, boire et s'habiller. Quand on lui dit qu'il est beau, fort. Un garçon, ça pousse bien quand il a un père. Une fille, c'est plus compliqué. La dame du cimetière est belle. Elle portait une jupe droite noire et un soupul gris. Je l'ai trouvée élégante, délicate. Elle m'a presque fait regretter de ne pas avoir eu de fille. Elle a mis du thé en vrac dans une théière avant de le tamiser. Ensuite, elle a posé du miel sur la table. Il faisait bon chez elle. Ça sentait bon. Elle m'a dit qu'elle aimait les roses, leur parfum. Vous vivez seule? Oui. Dans ce cimetière, je viens voir Gabriel Prudent. Il est enterré à les 19 dans le carré des cèdres, c'est bien ça? Oui. Vous connaissez tous les emplacements des défunts? La plupart. Et lui, c'était un grand avocat. Il y avait du monde à son enterrement. C'était en quelle année déjà? 2009. La dame du cimetière s'est levée pour prendre un registre, celui de l'année 2009, et elle a cherché le nom de Gabriel. C'est donc vrai. Elle note tout dans des cahiers. Elle m'a fait la lecture. 18 février 2009, enterrement de Gabriel Prudent, pluie diluvienne. Il y avait 128 personnes pour la mise en terre. Son ex-femme était présente ainsi que ses deux filles, Marthe Dubreuil et Chloé Prudent. À la demande du défunt, ni fleurs ni couronne. La famille a fait graver une plaque sur laquelle on peut lire « En hommage à Gabriel Prudent, avocat courageux ». Le courage pour un avocat, c'est l'essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas, talent, culture, connaissance du droit. Tout est utile à l'avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots. Des phrases qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Robert Badinter. Pas de curé, pas de croix. Le cortège n'est resté qu'une demi-heure. Quand les deux officiers des pompes funèbres ont fini de descendre le cercueil dans le caveau, tout le monde était reparti. Il pleuvait toujours très fort. La dame du cimetière m'a resservi une tasse de thé. Je lui ai demandé de relire ses notes sur l'enterrement de Gabriel. Elle l'a fait de bonne grâce. J'ai imaginé les gens autour du cercueil de Gabriel. J'ai imaginé les parapluies, les vêtements sombres et chauds, les écharpes et les larmes. J'ai dit à la dame du cimetière que Gabriel se mettait en colère quand on lui disait qu'il était courageux, qu'il n'y avait aucun courage à dire à un président d'assises qu'il était con de manière détournée, que le courage, c'était d'aller tous les jours en dehors de ses heures de travail, porte de la chapelle, pour distribuer des repas aux malheureux, ou de planquer des juifs chez soi en 1942. Gabriel me répétait toujours qu'il n'avait aucun courage, qu'il ne prenait aucun risque. Elle m'a demandé si nous parlions beaucoup, Gabriel et moi. J'ai répondu oui, et que cette histoire de courage que Gabriel détestait devait rester entre elle et moi. Je ne voulais pas que les gens qui croyaient avoir bien fait en mettant ces mots sur sa plaque en sa mémoire puissent savoir qu'il s'était trompé. La dame du cimetière m'a souri. Pas de problème, Tout ce qui est dit entre ces murs reste secret. Je me suis sentie en confiance auprès d'elle et je lui ai parlé comme si elle avait mis un sérum de vérité dans mon thé. Je vais sur la tombe de Gabriel 2 à 3 fois par an pour secouer une boule à neige que j'ai déposée près de son nom. Je découpe des articles dans les journaux pour lui, des chroniques judiciaires qui l'intéresseraient, et je les lui lis. Je lui donne des nouvelles du monde, en tout cas du sien, des affaires criminelles, passionnelles, éternelles. Je vais plus souvent sur la tombe de mon mari, Paul, qui est au cimetière Saint-Pierre à Marseille. À chaque fois, je lui demande pardon, parce que je serai enterrée près de Gabriel. Mes cendres seront déposées près de lui. Gabriel a fait le nécessaire chez son notaire, et moi aussi. Personne ne pourra s'y opposer. Nous n'étions pas mariés. Vous savez, j'ai eu envie de rentrer chez vous pour vous dire que le jour où mon fils, Julien, l'apprendra, c'est vous qu'il viendra questionner. Pourquoi moi? Quand il va découvrir que ma dernière volonté est de reposer aux côtés de Gabriel et non de son père, il va vouloir comprendre. Il va vouloir savoir qui était Gabriel Prudent, et la première personne à qui il va le demander, ce sera vous. Parce que la première personne sur laquelle il va tomber quand il poussera les grilles de ce cimetière, ce sera vous. Comme moi, lorsque je suis venue la première fois. Est-ce que vous voulez que je lui dise quelque chose en particulier? Non. Non, je suis sûre que vous trouverez les mots. Ou que pour une fois, Julien trouvera les siens pour vous parler. Je suis sûre que vous saurez l'aider, l'accompagner. J'ai quitté la dame du cimetière à regret. J'ai su que c'était la dernière fois que je venais à Brancion-en-Chalon. J'ai repris la route. Je suis rentrée à Marseille. 2016. J'ai terminé mon journal. Je vais bientôt rejoindre Gabriel. Je le sais. Je sens déjà l'odeur de ses cigarettes. J'ai hâte. Quand je pense que la dernière fois que l'on s'est vu, on s'est disputé. Il est temps de se réconcilier. Je me souviens de son parfum. Je ne me souviens plus de son visage, juste de ses cheveux blancs, sa peau, ses mains fines, son imperméable, et surtout de son parfum. Je me souviens de la douceur de ce moment, des mots qu'elle posait sur Gabriel. Il me reste sa voix aussi, son écho, quand elle m'a dit qu'un jour, son fils viendrait jusqu'à moi. Quand Julien a frappé à ma porte la première fois, il m'a fait oublier Irène. Je l'ai trouvé beau dans ses habits froissés, il ne ressemblait pas à sa mère. Elle avait la peau d'une blonde, lisse, claire et fragile, quand son fils avait tout de brun, des cheveux aux 4 vents et une peau qui avait bu tous les soleils. J'ai aimé ses mains de tabac sur moi, mais j'en ai eu trop peur aussi. Avant de partir pour Marseille, je lui ai téléphoné à plusieurs reprises, mais son numéro sonnait dans le vide. C'est comme s'il n'existait plus. J'ai même appelé son commissariat, on m'a répondu qu'il était parti, mais qu'on pouvait lui écrire, son courrier suivait. Qu'est-ce que je pourrais lui écrire? Julien, je suis folle, je suis seule, je suis impossible, vous m'avez cru et j'ai tout fait pour ça. Julien, j'ai été tellement heureuse dans votre bagnole. Julien, j'ai été tellement heureuse avec vous sur mon canapé. Julien, j'ai été tellement heureuse avec vous dans mon lit. Julien, vous êtes jeune, mais je crois qu'on s'en fout. Julien, vous êtes trop curieux. Je déteste vos manières de flic. Julien, votre fils, j'en ferai bien mon beau-fils. Julien, vous êtes vraiment mon genre d'homme, mais en fait, j'en sais rien. J'imagine que vous êtes vraiment mon genre d'homme. Julien, vous me manquez. Julien, je vais mourir si vous ne revenez pas. Julien, je vous attends. Je vous espère. Je veux bien changer mes habitudes si vous changez les vôtres. Julien. D'accord. Julien, c'était bien. C'était chouette. Julien. Oui. Julien. Non. La vie a arraché mes racines. Mon printemps est mort. Je referme le journal d'Irène, le cœur lourd. Comme on referme un roman dont on est tombé amoureux, un roman ami dont on a du mal à se séparer parce qu'on veut qu'il reste près de soi à portée de main. Au fond, je suis heureuse que Julien m'ait laissé le journal de sa mère en souvenir d'eux. Quand je rentrerai chez moi, Je le rangerai parmi les livres que je garde précieusement sur les étagères de ma chambre. En attendant, je le glisse dans mon sac de plage. Il est 10 heures. Je suis appuyée contre un rocher, assise sur le sable blanc à l'ombre d'un pin d'Alep. Ici, les arbres poussent dans les fissures de la roche. Les cigales se sont mises à chanter quand j'ai refermé le journal d'Irène. Le soleil cogne déjà, je le sens me piquer les orteils. L'été, le soleil d'ici brûle la peau en quelques minutes. Les vacanciers en sac à dos commencent à arriver par le chemin escarpé. À midi, la petite plage sera pleine de serviettes, de glacières, de parasols. Il n'y a pas beaucoup d'enfants à Sormiou. Pendant la haute saison, l'accès à la crique se fait à pied. Il faut marcher une bonne heure pour descendre depuis le parking des Baumettes. Ce n'est pas facile pour les familles. Souvent, les enfants qui échouent ici ont fait le chemin sur les épaules de leur père ou vivent dans les cabanons le temps des vacances. On les appelle les cabanonniers. Ce mot n'existe qu'à Marseille. On ne le trouve pas dans les dictionnaires. Ici, on autorise encore les gens à fumer dans les bars. Les facteurs signent les lettres recommandées pour éviter aux habitants de se déplacer s'ils ne sont pas là. À Marseille, on ne fait rien comme ailleurs. Hier soir, Célia est restée avec moi pour dîner. Elle avait préparé une paella aux fruits de mer qu'elle a fait réchauffer dans une grande poêle. Pendant ce temps, j'ai défait ma valise bleue, accroché mes robes sur des cintres. On a sorti la petite table de jardin en fer forgé, posé une nappe dessus. On a versé de l'eau et du rosé dans des carafes rouges. On a mis beaucoup de glaçons dans un bol jaune, posé un pain de campagne et des assiettes dépareillées. Tout est dépareillé au cabanon. Les objets ne semblent jamais être arrivés jusqu'ici ensemble. Célia et moi, nous sommes régalés de retrouvailles, d'idioties à se raconter, de riz doré et de rosé bien frais. Nous avons parlé si tard que Célia est restée. Elle a dormi avec moi comme la première fois à Malgrange-sur-Nancy pendant la grève de train. C'était la première fois qu'elle restait là. On a continué à boire du rosé allongé dans le lit. Célia a allumé 2 bougies. Les meubles de son grand-père ont dansé dans la lumière. On a laissé 2 fenêtres ouvertes pour faire des courants d'air. Il faisait bon. Ça sentait encore la paella. Les murs avaient avalé son odeur. Ça m'a redonné faim. Je m'en suis réchauffée encore un peu. Célia n'en a pas voulu. Quand j'ai posé l'assiette vide par terre, j'ai vu le profil de Célia, puis ses beaux yeux bleus comme 2 astres dans la nuit. J'ai soufflé sur les bougies. Célia, j'ai quelque chose à te dire. Ça va t'empêcher de dormir, mais comme nous sommes en vacances, c'est pas grave. Et puis, je ne peux pas ne pas te dire ça. Françoise Pelletier, c'était l'amour de Philippe Toussaint. C'est chez elle qu'il a vécu ces dernières années. Il l'a retrouvée le jour où il a disparu en 1998. Mais ce n'est pas tout. Je sais pourquoi il a disparu, pourquoi il n'est jamais rentré chez nous. Cette nuit-là, ce n'est pas l'incendie qui a tué les enfants. C'est le père Toussaint. Célia m'a agrippé le bras, elle a juste murmuré « Pardon ?» Il a bricolé un vieux chauffe-eau dans la chambre des enfants et il l'a mis en marche. Il ne savait pas qu'il ne fallait surtout pas y toucher. L'appareil n'avait pas été entretenu depuis des années. Le monoxyde de carbone, ça tue, c'est sournois, inodore. Elles sont mortes en dormant. Qui t'a dit ça? Françoise Pelletier. C'est Philippe Toussaint qui lui a tout raconté. C'est pour ça qu'il n'est jamais rentré à la maison le jour où il l'a appris. Il ne pouvait plus me regarder en face. Tu connais cette chanson de Michel Jonas ? Dites-moi, dites-moi même qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Oui. Ça m'a soulagée de savoir que Philippe Toussaint n'était pas parti à cause de moi, mais à cause de ses parents. Célia m'a serré le bras encore plus fort. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai repensé aux vieux Toussaint. Ils étaient morts depuis longtemps. Un notaire de Charleville-Mézières m'avait contacté en 2000 et il recherchait leur fils. Quand le jour est entré par les fenêtres, que le courant d'air s'est fait plus doux, Célia a ouvert les yeux. « On va se faire un bon café !»« Célia, j'ai rencontré quelqu'un. »« Eh ben, c'est pas trop tôt !»« Mais c'est fini. »« Pourquoi ?»« J'ai ma vie, mes habitudes. »« Depuis si longtemps. »« En plus, il est plus jeune que moi. En plus, il ne vit pas en Bourgogne. En plus, il a un enfant de 7 ans. Ça fait beaucoup de « en plus ». Mais une vie et des habitudes, ça se change. Tu crois? Oui. Tu changerais d'habitude, toi? Pourquoi pas?